Femmes en lutte, un combat mondial. Le Monde, en partenariat avec l'Agence française de développement, vous propose de découvrir un podcast en 5 épisodes dédié au féminisme. Partout dans le monde, tous les jours, des femmes et des hommes luttent. Luttent pour l'égalité, la liberté, le respect. Lutte pour scolariser les jeunes filles ou pour défendre leur intégrité physique. Lutte contre les violences domestiques ou pour permettre aux femmes de travailler. Ces luttes sont plurielles et le combat est mondial. Je suis Julie Gaillet et c'est ce que je me propose de vous raconter avec cette série. Aujourd'hui, cap sur la Colombie, ou le long de la frontière avec le Venezuela, qui s'étend sur 2200 km, il n'est pas rare de croiser des files de migrants. À pied, ils traversent la frontière et parcourent des kilomètres pour tenter leur chance à Bogota, Medellín, Popayán, ou poursuivre leur périple jusqu'en Équateur ou au Pérou. Depuis 2015, 5,5 millions de Vénézuéliens ont pris la route de l'exil pour fuir la crise économique, sociale et politique qui sévit dans leur pays. Parmi ces migrants, il y a des femmes. Beaucoup de femmes. Fin 2019, elles représentaient 55% de la population migrante. 30% d'entre elles avaient moins de 18 ans. Xénophobie, déclassement professionnel, exploitation sexuelle. Ces femmes paient le prix fort de cette crise migratoire sans précédent. C'est ce qu'est allée constater la journaliste Marie Delcas et ce qu'on vous raconte dans ce podcast. Mariani a 23 ans. En pleine pandémie, elle a passé clandestinement la frontière entre la Colombie et le Venezuela avec son mari et sa fille, mais sans un sou en poche.
Nous, on est arrivés il y a 15 jours. On a mis 3 jours pour venir, en faisant du stop et en marchant. Il fallait porter notre fille parce qu'elle n'aime pas marcher et porter nos 3 sacs. Mon mari n'a pas de travail fixe là-bas et le salaire ne permettait plus de vivre, juste d'acheter du pain pour manger un peu. Alors avec la pandémie, c'est devenu pire. Demain ou mardi, on part pour une autre ville, en marchant parce que nous n'avons pas d'argent et ici non plus, il n'y a pas de travail. Nous n'avons pas de famille qui nous attend, nous allons donc tenter notre chance comme ça.
Ces migrantes qui viennent chercher un avenir meilleur, Lucas Gomez les voit passer tous les jours. Il est directeur des frontières et responsable, avec les services migratoires du ministère des Relations extérieures, de la politique migratoire du pays.
La Colombie en 2016 avait 56 000 Vénézuéliens sur le territoire. Après 4 ans et demi, qui a atteint presque 2 millions. Ça, c'est un défi gigantesque pour un pays comme la Colombie. En plus, la Colombie a toujours été un pays d'émigration et aujourd'hui est en train d'apprendre à vivre avec cette immigration qui est bien complexe. Bien complexe, mais qui on considère depuis le gouvernement colombien que c'est une opportunité de croissance à moyen terme et à long terme. On a beaucoup de femmes qui sont aujourd'hui en train de travailler en Colombie, qui sont venues pour travailler, pour chercher des ressources. Elles sont un peu mieux formées que les hommes. On considère aussi que c'est une bonne opportunité d'avoir ces femmes dans notre marché et d'avoir ces femmes travaillant dans leur spécialité. Donc on croit et on est convaincu qu'il y a particulièrement des beaux jours pour les Vénézuéliennes en Colombie. On va leur donner la permission de rêver d'un futur meilleur et pour eux et pour leur famille.
Face à l'arrivée de ces migrantes, l'État colombien a donc mis en place une politique bienveillante. Comme l'explique Alexandra Castro, spécialiste des questions migratoires.
L'arrivée des Vénézuéliens en Colombie a représenté un grand défi pour la Colombie, non seulement pour les représentants politiques, mais aussi pour la population en général. Les grands nombres de personnes qui sont arrivées ont mis à l'épreuve non seulement les systèmes sociaux de l'État, mais aussi les sentiments de bienveillance et de solidarité des Colombiens. D'un côté, une partie de la population a un peu rejeté cette arrivée des Vénézuéliens et on a vu une montée de la xénophobie. Mais de l'autre côté, l'État a pris des décisions et adopté des politiques plutôt bienveillantes pour leur permettre d'habiter au pays et de mener leur vie. Tout récemment, l'État a bien adopté une politique qui permet aux Vénézuéliens de rester, de régulariser leur statut et de rester en Colombie pendant une dizaine d'années. Cette mesure va permettre à plus d'un million de Vénézuéliens de séjourner en Colombie et permettre aux Vénézuéliens qui vont arriver de rester en Colombie et d'y habiter pendant 2 ans.
Mais malgré l'accueil de la Colombie, l'intégration des femmes migrantes n'est pas si facile. Souvent plus diplômées que les hommes, et même plus diplômées que les Colombiens, les migrantes vénézuéliennes peinent à trouver du travail dans leur domaine et subissent un véritable déclassement professionnel. Comme le raconte Mercedes Ortiz, 45 ans, arrivée il y a 4 ans.
Pourquoi j'ai décidé de partir ? Parce qu'à l'époque, il y a 4 ans, mon salaire d'éducatrice était de 1 dollar. Je ne faisais plus qu'un repas par jour. Alors je me suis dit, c'est bon, j'embarque mes diplômes et ma mère. Et je suis partie le 8 août de 2017. Pleine d'espoir, j'avais tous mes diplômes parce que je voulais faire ce que je sais faire, donner des cours. Mais à cause de mon âge, on ne m'a pas embauchée dans l'éducation. J'ai alors commencé à faire la plonge dans un restaurant. Le jour où j'ai touché mon premier salaire, je me suis sentie multimillionnaire. Pouvoir manger un steak entier, c'était merveilleux.
Quatre ans après son arrivée, Mercedes est toujours cuisinière et son salaire de multimillionnaire, comme elle dit, ne dépasse pas les 200 euros mensuels, le salaire minimum en Colombie. Gisèle, elle, a 56 ans. Elle a débarqué en Colombie en 2019 et a créé une fondation pour aider les nouveaux arrivants. Pour elle, l'une des premières difficultés rencontrées par les migrants, c'est le déracinement.
El duelo de partir de tu tierra.
Quitter ta terre, laisser tes racines, ta famille, c'est un vrai deuil. Ce qui est dur, c'est que tous les jours tu vas y penser, que tu le veuilles ou non. Tu demandes à quel moment le téléphone va sonner et peut-être qu'un appel du Venezuela te dira qu'un de tes vieux parents est parti. Nous les Vénézuéliens, nous sommes très famille. On partage tout avec les cousins, les oncles, les grands-parents. On est tous responsables de tout le monde. Alors la migration, ça désarticule complètement les familles.
Si l'arrivée de ces migrants est vue comme une opportunité par le gouvernement, ce n'est pas toujours le cas de la population. Dans un pays en voie de développement comme la Colombie, les problèmes du quotidien n'encouragent pas les habitants à accueillir les nouveaux venus. Alejandro Dali est vénézuélien. Il est venu en Colombie pour faire des études d'économie. Avec son frère, il a créé un baromètre de la xénophobie en ligne pour repérer les commentaires racistes ou les menaces de mort sur Twitter.
Dans le baromètre de la xénophobie, on a pu identifier un point commun dans les commentaires xénophobes et dans les discours discriminatoires envers les femmes migrantes. On a remarqué une hypersexualisation du corps des femmes, c'est très prégnant, très identifié. Les femmes sont d'une part plus victimes de commentaires xénophobes, mais elles sont aussi moins enclines à tenir ces mêmes propos. On a relevé que 80% des commentaires xénophobes venaient d'hommes et que la plupart d'entre eux sont adressés aux femmes migrantes.
Carmen Montada est née au Venezuela. Ses grands-parents sont colombiens. Elle travaille pour une association de migrants et elle connaît par cœur les problèmes rencontrés par les femmes migrantes.
Quand la migration vénézuélienne a commencé, il y a une douzaine d'années, et que c'était des chefs d'entreprise qui venaient investir dans différents pays, il n'y avait pas de xénophobie comme il y en a depuis 3 ans. Depuis que c'est une population qui quitte le Venezuela par nécessité absolue, sans aucune ressource, juste à la recherche d'opportunités. Ils traversent le pays et la moitié du continent à pied. Et cela fait monter la xénophobie. On est tous perçus comme des gens dangereux, comme des profiteurs, capables d'utiliser nos enfants pour mendier. Grâce à Dieu, moi, je n'ai pas été victime ni de violences sexuelles, ni de harcèlement. Mais en tant que leader, oui, je me suis occupée de beaucoup de cas de violences de genre, d'agression, de discrimination envers les femmes. Et dans le département du Nariño et le contexte du conflit armé colombien, je sais qu'il existe des recrutements de jeunes filles dans des zones urbaines pour les emmener dans des zones rurales à risque. Elles finissent, d'une façon ou d'une autre, impliquées dans des réseaux de traite, de prostitution et d'exploitation sexuelle.
Pues terminan vinculadas de una manera u otra en redes de trata, prostitución, explotación sexual.
Cette vulnérabilité est notamment liée aux tensions qui minent le pays depuis des années. La Colombie a connu un très long conflit armé avec les FARC jusqu'en 2016, date à laquelle un accord de paix a été signé. Mais il reste encore aujourd'hui une guérilla active, l'armée de libération nationale et des groupuscules dissidents des FARC qui ont repris les armes ou ne les ont jamais déposées, ou encore des milices au service du narcotrafic. Irène Cabrera est chercheuse en sciences politiques à l'université Externado à Bogota. Pour elle, les femmes migrantes sont particulièrement exposées dans ce contexte de conflit larvé.
En Colombia, también debemos tener presente el impacto del conflicto armado.
En Colombie, il faut tenir compte du conflit armé qui accentue la vulnérabilité et les risques auxquels sont confrontées les femmes et les filles migrantes.
Esta población enfrenta un riesgo de reclutamiento.
Elles sont en effet exposées au risque de recrutement pour mener les activités militaires, mais aussi dans les groupes armés comme compagnes sexuelles pour les membres de ces structures.
Como parejas sexuales para los miembros de estas estructuras. En el año 2020,
en 2020, l'organisation Oxfam d'Amérique latine a montré que plus de la moitié des gens interviewés en Colombie, en Équateur et au Pérou pensaient que les femmes migrantes allaient finir par se prostituer.
Migrantes, mujeres, iban a terminar ejerciendo la prostitución.
Ce résultat s'explique parce que l'idée s'est répandue que les Vénézuéliennes piquent les maris, qu'elles sont disposées à se prostituer à bas prix et même qu'elles sont responsables de leur pauvreté parce qu'elles ont beaucoup d'enfants. Cette vision a des conséquences sur leur intégration et dans l'espace public et dans le monde du travail, elles sont victimes de harcèlement sexuel. On les oblige à faire plus d'heures. En bref, l'idée flotte que la femme vénézuélienne vaut moins que les autres et peut être soumise à des conditions plus dures.
Es menos y que se le puede someter a peores condiciones.
Alors, quel avenir pour les femmes migrantes en Colombie ? La mise en relation et la collaboration des différents acteurs du territoire paraît indispensable pour les aider à s'intégrer. Gouvernement, associations et ONG agissant ensemble. C'est cette synergie qui est au centre du projet Cruzando Fronteras de l'Agence française de développement. Myriam Boulsama en est la directrice.
Le projet Cruzando Fronteras, c'est la première intervention sur le thème de la migration en Amérique latine. Motivé par l'ampleur de la crise migratoire vénézuélienne et ses conséquences socio-humanitaires, au Venezuela bien sûr, mais également dans les pays avoisinants, en particulier la Colombie. S'agissant d'un sujet ayant des implications politiques et humanitaires. L'action a été précédée d'une réflexion et d'une coordination étroite avec le département des Amériques au sein du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et au sein du ministère des Affaires étrangères colombien, la Cancilleria. On a effectivement dédié ce projet à la femme migrante. On estime que la prise en compte des besoins différenciés de nos bénéficiaires en fonction du genre doit être un souci majeur pour l'AFD et, dès que c'est possible, intervenir pour atténuer ces inégalités. Précisément, eh bien, on fait référence à l'inégalité d'accès aux services essentiels, à l'inégalité d'accès aux opportunités professionnelles et d'emploi, d'accès au financement, mais aussi aux inégalités en termes de degré de vulnérabilité en contexte de crise. Donc c'est un projet qui bénéficiera directement au bien-être, à la santé et à l'intégration socio-économique des femmes et des filles impactées par cette crise dans deux pays transfrontaliers, la Colombie et l'Équateur. Les points forts de la proposition de Care France qui a remporté l'appel d'offres de l'AFD sont tout d'abord leur connaissance du terrain et la présence de la Fondation dans les régions transfrontalières dans lesquelles on souhaite travailler. La prise en compte aussi des besoins différenciés des populations, en particulier sur les questions de genre. La capacité à offrir des services à la personne de manière individualisée. Et puis, un autre point très important également, c'est la capacité de la Fondation à mobiliser et à renforcer les acteurs de la société civile locale. Et notamment côté colombien, CARE va travailler avec la Fondation Maria Fortaleza, qui travaille sur ces sujets depuis 1998, et avec l'organisation Corpo Dinco, spécialisée dans la prise en charge médicale et psychologique des groupes en situation de vulnérabilité.
C'est donc l'ONG CARE qui pilote sur le terrain le projet Cruzando Fronteras. Catalina Vargas est la responsable régionale humanitaire de CARE. Pour elle, il faudra rester vigilant sur l'avenir de ces migrantes dans les prochaines années.
Il y a eu beaucoup d'efforts pour garantir une réponse humanitaire à cette crise régionale qui a intégré le gouvernement, aussi les Nations Unies, les ONG, pour convenir dans des stratégies communes. Cependant, il faut dire que ces stratégies ont été déroulées à un niveau national, ce qui empêche de concevoir une réponse régionale à une crise régionale. Et donc, ça crée beaucoup de challenges pour des personnes qui font le transit entre les divers pays, notamment pendant la période actuelle avec la crise du Covid. Forcément, cette situation crée encore plus de vulnérabilités pour les Vénézuéliens. Donc, il faut reconnaître qu'il y a beaucoup d'efforts pour garantir une réponse. Malheureusement, le nombre de personnes dépasse les capacités actuelles des États en Amérique latine. Et il y a déjà des pays qui sont en situation très, très sensible, notamment la Colombie avec la situation politique et économique. Donc, la population vénézuélienne est carrément affectée par toutes les mesures de prévention de Covid et forcément, les réponses restent insuffisantes. Les mesures du gouvernement pour garantir les statuts réguliers sont en besoin d'être en place, comme par exemple l'initiative du gouvernement colombien au début de cette année, avec la disposition de garantir les statuts réguliers à toutes les personnes qui ont rentré dans les territoires avant fin janvier. Malheureusement, il reste encore beaucoup de doutes et de gaps dans l'implémentation de cette mesure qui, en principe, est bien forcément bienvenue, applaudie par la sphère internationale. Donc, l'appel est bien sûr à mettre en œuvre des politiques publiques et de renforcer des mécanismes de protection pour empêcher tout type de violence, mais aussi pour garantir l'état civil de régularisation et la résidence des personnes déplacées, filles, garçons, adolescents, leurs familles, par exemple, éviter l'apatridie et mettre fin à toutes les mesures discriminatoires et à la haine et discours qui incitent la xénophobie contre les migrants et les populations réfugiées.
En 2020, la Colombie a connu un confinement strict de mars à septembre. Même s'ils ont un peu ralenti, les flux migratoires n'ont pas cessé. Face à cette crise liée au Covid, 90% des migrantes se sont retrouvées en situation de pauvreté. C'est le constat qu'a pu faire sur le terrain l'ONG Action contre la faim. Alors depuis mars dernier, 100 000 Vénézuéliens ont fait le trajet inverse, retournant dans leur pays tout en espérant revenir plus tard. Nassim Majidi est cofondatrice et directrice de Samuel Hall, une entreprise sociale dédiée à la recherche sur les migrations en Asie, en Afrique et en Europe. Depuis Nairobi au Kenya, où elle est actuellement basée, elle s'entretient avec la journaliste Josefa Lopez et elle décrypte les enjeux et les problématiques posées par les migrations des femmes.
Nassim Majidi, bonjour.
Bonjour.
Alors l'image de l'homme seul, migrant pour des raisons économiques ou politiques, est restée prégnante dans les représentations sur l'immigration. Et cette image a fait de la migration féminine un phénomène finalement assez marginal ou de second rang. Pourtant, dans le reportage que nous venons d'entendre, des femmes vénézuéliennes tentent leur chance et viennent s'installer en Colombie. Pourquoi on conserve cette image un peu fausse de l'immigration ?
Les migrations sont souvent considérées à travers un prisme masculin, alors que les femmes migrent autant que les hommes. Les données relatives aux migrations manquent. En fait, le gros problème, c'est que les données ne sont pas désagrégées par sexe ni par âge, d'ailleurs. Et les politiques migratoires doivent tenir compte de la manière dont le sexe détermine les différents besoins des migrants. Mais on manque de données pour cela. Autant sur les aspects positifs de la migration, par exemple sur l'impact qu'ont les femmes sur le développement grâce à leur migration, mais aussi sur les vulnérabilités auxquelles sont confrontées les femmes migrantes. Et ce que l'on sait aussi, et je souligne quelques points additionnels pour expliquer ce manque d'attention et d'information sur la situation des femmes migrantes, tout d'abord, les femmes migrantes sont souvent invisibles et inaudibles. Dans certains cas, c'est par choix. Nombreuses femmes migrantes aussi n'ont pas le choix, ont tout simplement peur. Donc dans mes propres recherches de Calais à la frontière entre l'Afghanistan et l'Iran, il est beaucoup plus facile de parler à des migrants hommes qu'à des femmes qui se méfient, qui ne font pas facilement confiance à des étrangers et qui sont imprégnées très nettement de traumatismes liés aux raisons du départ et aux conditions du voyage. Les femmes migrantes non qualifiées travaillent aussi souvent dans des secteurs moins réglementés et moins visibles que les hommes migrants.
Alors, selon les chiffres des Nations Unies, les femmes constituent 51% des flux migratoires, ce qui représente 135 millions de femmes dans le monde. Quel est en général le profil des femmes qui migrent et pourquoi quittent-elles leur pays ?
On parle aujourd'hui d'une féminisation de la migration pour expliquer ce que vous venez de souligner, justement comment les femmes sont en mouvement aujourd'hui comme jamais auparavant et avec de nouveaux rôles et de nouveaux profils. Les femmes, par exemple, sont devenues des migrantes indépendantes, souvent des pourvoyeuses économiques primaires. Actuellement, les femmes sont moins nombreuses à se déplacer pour le regroupement familial qu'auparavant et plus nombreuses à se déplacer à la recherche d'un emploi. Donc il y a une demande aussi croissante de main-d'œuvre féminine migrante dans les pays de destination qui justifie cela, qui explique cela, en particulier dans les secteurs des soins, des services domestiques et de la manufacture. Donc des millions de femmes, par exemple, du Sud émigrent pour faire le travail que les femmes du Nord ne peuvent plus ou ne veulent plus faire. Les femmes, d'ailleurs, sur ce point spécifique, donc ici je parle de femmes migrantes, de travailleurs femmes, ont déplacé en 2016 300 milliards de dollars, soit l'équivalent de la moitié des transferts de fonds mondiaux, ce qui signifie encore une fois que les femmes transfèrent autant d'argent que les hommes, mais encore un pourcentage plus élevé de leurs revenus, parce qu'elles gagnent généralement des salaires moins élevés. Et ce qu'on voit aussi, comme dans votre reportage, c'est que les femmes hautement qualifiées ont des taux de migration élevés, mais beaucoup d'entre elles occupent des emplois peu qualifiés, donc peu qualifiés et payés à des salaires moins élevés, comme je viens de le souligner.
les femmes migrent souvent parce qu'elles sont plus indépendantes, mais on a aussi l'image de femmes qui vont migrer pour suivre un mari, par exemple. On parle d'immigration dite passive. Quel est le taux le plus majoritaire aujourd'hui ?
Jusqu'à récemment, on pensait que les femmes émigraient principalement pour rejoindre un partenaire ou pour le regroupement familial. Aujourd'hui, un nombre croissant de femmes se déplacent de leur propre chef, notamment pour trouver du travail, ce qui conduit justement à cette féminisation de la migration. Donc c'est vraiment une féminisation parce que les taux ont augmenté, mais aussi parce que le profil des femmes et la raison derrière leur migration a changé. Et si la manière de migrer évolue, elles sont également plus nombreuses à être chefs de file de la migration, c'est-à-dire le premier membre de la famille à migrer. Les femmes hautement qualifiées sont plus susceptibles de migrer seules que les femmes peu qualifiées.
Alors que souvent, mais on peut voir l'inverse, c'est-à-dire des hommes qui vont d'abord migrer pour trouver du travail et rejoints ensuite par leur famille.
Il y a encore beaucoup de recherches à faire sur ces questions d'autonomie des femmes et des filles aussi, parce qu'on voit beaucoup de filles adolescentes migrer, en ce qui concerne les décisions relatives à la migration et leur participation même à la prise de décision. Ces enjeux sont souvent mal compris et souvent la participation des femmes et des filles sont souvent aussi limitées. Donc elles ne sont peut-être pas seules à prendre la décision de migrer, elles ne sont peut-être pas vraiment complètement autonomes dans leurs décisions. Et on dit souvent qu'il y a un double constat, que les femmes soit prennent une décision, soit on prend une décision pour elles. Donc il y a encore beaucoup d'enjeux sur cette dichotomie entre autonomie et mission quelque part familiale que les femmes doivent remplir.
Vous voulez dire que des femmes pourraient être poussées à migrer pour aller trouver un travail, pour apporter de l'argent et peut-être le renvoyer à de la famille par exemple ?
Oui, les femmes migrent donc pour travailler. Elles renvoient de l'argent dans les pays d'origine à leur famille au même taux que les hommes, mais à un taux par rapport à leur salaire plus élevé puisqu'elles gagnent souvent moins. Et ces femmes, même à distance, sont souvent responsables pour la situation de leur famille. Elles restent responsables de l'organisation des soins de personnes à charge, de leurs enfants ou de leurs parents. C'est un autre aspect migratoire de la migration des femmes qu'il faut compter et qu'il faut comprendre parce que leur responsabilité ne diminue pas, elle ne fait qu'augmenter avec la migration.
Alors sur le chemin, pourtant, la route n'est pas simple. À quels dangers s'exposent les femmes et est-ce que ces dangers varient selon les migrations ?
Alors, tous les migrants sont vulnérables, il faut le souligner, à des formes d'exploitation et d'abus, mais c'est vrai que les femmes migrantes le sont d'autant plus que les hommes. Elles sont toutes particulièrement à risque, et les chiffres le soulignent, environ 80% des victimes de traite sont des femmes ou des filles. Donc, les femmes sont confrontées à des difficultés de sécurité spécifiques déjà lorsqu'elles doivent traverser des frontières, notamment le harcèlement sexuel, l'exploitation sexuelle, la violence sexuelle. Et en effet, ces formes d'exploitation et de harcèlement auxquelles, par exemple, des commerçantes, même en Afrique, sont confrontées de la part des agents de l'immigration, des autorités de police, d'autres fonctionnaires, sont fréquemment citées comme un obstacle majeur, non seulement à la protection des femmes, mais au bon fonctionnement de commerce et donc de potentiel économique pour les pays et les régions dans lesquelles l'immigration se situe. Et dans les situations de déplacement forcé, il ne faut pas oublier que dans les situations de conflit ou de désastre naturel, l'effondrement de systèmes de protection facilite aussi les abus. Mais aussi, il faut penser au manque d'hygiène, au manque d'espace quand les femmes habitent dans des habitations serrées ou dans des camps. Tout cela renforce les risques de violence faites aux femmes. Il peut y avoir des mécanismes d'adaptation aussi, comme nous l'avons vu dans nos recherches en Afghanistan ou chez les réfugiés syriens, de mariage d'enfants par exemple, ce qui touche aussi principalement les filles.
Alors souvent, on a l'impression que ces femmes migrantes, elles deviennent invisibles quand elles arrivent dans les pays hôtes.
Il y a une vraie forme d'invisibilité et d'inaudibilité des femmes migrantes. Donc, comme les femmes travaillent pour beaucoup dans l'emploi informel ou formel, mais par exemple sont surreprésentées dans la sphère domestique, les travailleuses migrantes, en particulier les sans-papiers, sont souvent victimes de violations généralisées de leurs droits, non seulement droits du travail, mais aussi de droits humains. Par exemple, aux États-Unis, les victimes de la traite sont presque exclusivement des immigrés et surtout des femmes. Elles sont particulièrement vulnérables à la traite des êtres humains en raison de leur incapacité à parler la langue, de leur méconnaissance des protections en matière d'emploi. Les femmes immigrées sont souvent isolées, dans des ménages privés, sans papiers ni protection juridique. Elles travaillent de longues heures pour de faibles salaires et leur travail peut être particulièrement dégradant. Beaucoup d'entre elles sont victimes d'abus psychologiques, physiques et sexuels qui font qu'elles sont isolées, marginalisées et sont incapables de trouver de l'aide dans ces cas de figure. Et très souvent, donc cela les rend bien sûr invisibles.
Est-ce que ces femmes savent ce qui les attend dans leur pays hôte lorsqu'elles migrent ?
Certaines femmes rencontrent encore des difficultés à quitter leur pays en raison de lois discriminatoires prohibitives ou de normes sociales restrictives, ce qui fait qu'elles doivent déjà passer beaucoup de barrières avant de pouvoir migrer, ce qui ne les pousse pas forcément à se renseigner ou à comprendre ce qui passe après. L'acte même de migrer est déjà assez difficile et l'attention des femmes est souvent focalisée sur ce voyage qui, elles le savent, va être difficile.
On pense d'abord à court terme, finalement. Essayer déjà de partir.
Voilà, elle pense à partir et arriver au point de destination. Ensuite, de nombreuses femmes s'en remettent aux agences de recrutement dans les situations de migration, de travail organisée. Donc, ces agences de recrutement sont la porte d'entrée pour trouver un emploi dans les secteurs où la demande de femmes est la plus forte. Mais dans de nombreuses régions du monde, ces agences et des courtiers privés gèrent les programmes d'emploi, l'obtention de permis de travail et en fait tout le processus de migration sans forcément donner assez d'informations aux migrantes. Donc ça mène à un manque de connaissances aussi dû à ce processus qui est déjà mis en place et qui est très bien organisé.
Alors l'une des caractéristiques des femmes migrantes, c'est aussi qu'elles viennent souvent avec leurs enfants. C'est un poids à gérer et c'est forcément une pression pour réussir.
Alors oui, dans votre documentaire, la journaliste le souligne, ce sont des cas où les femmes peuvent migrer avec leurs enfants. Cela se passe le plus souvent lorsque la migration est faite à courte distance ou par des voies terrestres. Mais en général, au niveau mondial, les femmes migrantes ne peuvent pas emmener leurs enfants avec elles. Si vous regardez les chiffres, par exemple, des millions d'enfants de pays du Sud ont été laissés par leur mère. Donc je pense notamment aux 9 millions d'enfants philippins dont l'un ou les deux parents travaillent à l'étranger en tant que travailleurs migrants. Là, la question est la suivante, comment se portent ces enfants ? Et les recherches ne sont pas encore concluantes. Mais donc la féminisation d'un certain nombre de secteurs de travail, donc en particulier le travail domestique, les industries de soins, crée cette chaîne mondiale de soins, crée cette demande pour cette migration. Et les femmes qui occupent ces postes ont tendance à s'appuyer sur des parentes ou sur d'autres membres de la famille pour s'occuper de leur propre famille.
Alors, il est parfois difficile pour les femmes migrantes de trouver un emploi, on l'a dit, ou alors elles se retrouvent confrontées à des conditions de travail difficiles, de faibles salaires, de mauvaise protection sociale. Résultat, une des solutions souvent trouvées pour beaucoup de femmes, c'est la prostitution.
Oui, exactement. Donc, nombreuses femmes, que ce soit encore dans des cas de migration volontaire ou de migration forcée, se retrouvent dans des réseaux de traite qui les mènent à une prostitution. Où on le voit aussi très bien dans des pays comme l'Éthiopie, des jeunes érythréennes réfugiées se retrouvent avec aucun autre choix dans des centres urbains où elles n'ont pas forcément d'assistance en tant que réfugiées à devoir dépendre de la prostitution. Il y a aussi des jeunes travailleurs domestiques migrants éthiopiens qui sont souvent confrontés à des compromis difficiles entre les gains économiques et l'autonomisation, l'exploitation et les abus, étant souvent battus par les employeurs. Ça fait partie justement de l'information qu'elles n'ont pas avant de migrer, qu'elles découvrent et qu'elles subissent bien plus tard pendant leur migration.
Alors finalement, être femme et immigrée, on a l'impression que c'est la double peine.
Il y a certainement une double discrimination face au racisme, à la xénophobie. Les femmes souffrent de l'image négative qu'ont les migrants partout dans le monde, mais de plus des discriminations dans les transports publics, dans leur accès à l'éducation et à la santé en tant que femmes. Et oui, les femmes et les filles sont souvent harcelées plus que les migrants hommes dans ces cas-là. Mais la double peine se trouve encore ailleurs, elle se trouve même au point de départ, pas juste au point de destination, donc elles le vivent vraiment tout au long de leur parcours migratoire. Les femmes ont vécu souvent une discrimination qui les pousse à migrer parce qu'elles n'ont pas accès à certaines libertés ou en sont privées dans certains pays. Les risques liés au mariage précoce, par exemple, aux violences domestiques, aux mutilations génitales féminines peuvent pousser les femmes à quitter leur pays. D'autres femmes sont discriminées et ne peuvent pas migrer, soit pour des raisons culturelles, soit parce qu'elles n'ont jamais eu accès à l'éducation. Donc cette thématique de la double peine, oui, les touche à l'origine et une double discrimination à l'arrivée.
Nassim Majidi, selon vous, comment ces femmes peuvent-elles devenir actrices de leur migration et non plus la subir ?
Il y a tout un cadre normatif qui manque encore dans la protection des femmes migrantes. Alors certains pays comme les Philippines et le Sri Lanka ont créé des bureaux spéciaux pour promouvoir activement la migration mais aussi la protection des femmes migrantes. Donc on le voit par exemple, le gouvernement sri-lankais a mis en place des programmes de formation avant le départ pour apprendre aux femmes à manipuler les appareils ménagers, à préparer la nourriture, à dresser une table, mais aussi à se préparer à la vie d'une immigrée dans un pays qu'elles ne connaissent pas. Le gouvernement philippin a signé plus de 25 accords bilatéraux sur les services de santé, la coopération en matière de ressources humaines. Par contre, ce type d'exemple manque encore. Les routes de migration légale aussi tout simplement manquent. Et une stratégie que les pays pourraient appliquer pour améliorer les conditions de vie et de travail des femmes migrantes consiste aussi tout simplement à ratifier et à appliquer les traités qui existent et qui visent à protéger leurs droits. Donc ici, je pense tout particulièrement à la Convention sur les travailleurs migrants, adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies en 1990, qui est le seul document exhaustif au monde pour la protection des travailleurs migrants. Cette convention-là garantit des droits fondamentaux à tous les migrants, avec ou sans papier, notamment une protection efficace de la part de l'État. Mais à ce jour, seuls 50 pays sont des États parties à la Convention. 16 sont signataires et 132, dont les États-Unis, n'ont pris aucune mesure. Donc le cadre normatif encore manque. Et une priorité politique cruciale doit donc être de veiller à ce qui est déjà un droit légal. On le voit par exemple en Afrique de l'Ouest, par exemple, la libre circulation des personnes de la CEDEAO doit être mise en œuvre en pratique et doit être ajustée pour vraiment protéger la migration transfrontalière des femmes et intégrer des indicateurs d'inégalité entre les sexes et contribuer davantage au bien-être des femmes et de leur ménage.
Alors, on l'a vu au début de cette interview, les recherches sont moins nombreuses concernant les migrations de femmes. Est-ce que c'est en train de changer et est-ce que ça permettrait finalement un meilleur suivi, un meilleur accueil, des solutions plus adaptées selon vous ?
Les recherches, depuis, disons, 10-20 ans, existent. Le défi maintenant reste à intégrer ces recherches, à les transformer en indicateurs ou en données que les gouvernements puissent intégrer dans leur système statistique national, qu'on puisse avoir plus d'informations, plus de données sur les femmes. Il reste aussi un cap à passer au-delà du niveau statistique ou normatif, à penser aux aspects sociaux. Donc ne pas se concentrer uniquement sur les femmes, mais aussi prendre en compte les considérations des hommes, les rôles qu'ils peuvent jouer dans la lutte contre les normes sociales néfastes, la création d'un changement positif dans les pays et dans les communautés d'origine et de destination. Il faut vraiment qu'il y ait ce sens d'ouverture généralisée à la situation des femmes migrantes. Et je pense qu'avec cette pandémie qui a souligné les inégalités auxquelles sont sujettes les femmes en général, on a besoin tout particulièrement de plus de recherches sur la situation des femmes migrantes et les inégalités auxquelles elles sont aujourd'hui confrontées à cause de cette pandémie qui les affecte autant dans les pays de destination, mais qui aussi a un impact sur leur famille dû à des taux de rémittance, par exemple, décrus. Donc il reste encore beaucoup de perspectives de recherche et de travail à fournir pour mieux comprendre les nouvelles dynamiques qui influent sur les femmes, mais aussi comprendre le lien qui peut être fait avec les systèmes normatifs et statistiques nationaux.
Merci beaucoup Nassim Majidi. Alors je rappelle que vous êtes cofondatrice et directrice de Samuel Hall, un think tank indépendant qui travaille sur les migrations dans le monde.
Merci beaucoup, merci de m'avoir reçu.
Partout, tous les jours, des femmes et des hommes luttent pour l'égalité, la liberté et le respect. Ces luttes sont plurielles et le combat est mondial. Femmes en lutte est un podcast du Monde, réalisé en partenariat avec l'Agence française de développement. À retrouver sur toutes les plateformes et sur lemonde.fr.